verrons-nous demain ? Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité par rapport à l'architecture, qui est un sujet généralement qui dépasse l'actualité. C'est la grève des écoles d'architecture qui est relativement rare dans cette profession et dans ce corps de l'enseignement supérieur, et qui nous rappelle les grèves de 68, parce que l'on sait que en 68, les mouvements étaient partis de l'École nationale des beaux-arts à Paris. Et donc, il y a un petit côté de parfum, demi-siècle après, de revenez-y révolutionnaire. Alors bon, bien sûr, ça, on se situe dans une période de revendications, les revendications sont totalement hétéroclites, bien plus d'ailleurs aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être à cette époque, même si l'époque révolutionnaire de 68, entre guillemets révolutionnaire, était particulièrement fournie en concessions. Alors, cette grève, c'est assez surprenant parce que elle démarre avec la réforme des retraites, ce qui est assez surprenant, et effectivement qui ferait rire les 68ards, qui font rire les 68ards d'ailleurs, puisque c'était un sujet qui, effectivement, les retraites n'apparaissaient pas d'une grande urgence pour la jeunesse qui avait 20 ans en 68. Mais enfin, aujourd'hui, on rattache à cette grève prétexte des retraites des revendications qui sont strictement, on peut dire, conjoncturelles et liées à l'enseignement de l'architecture. Et je pense qu'il y a toujours des critiques à faire et nous allons en parler, notamment de la spécificité française de l'enseignement par rapport à d'autres pays. En fait, disons l'historique de cette spécificité française. En fait, les écoles d'architecture, comme j'étais en train de vous dire, elles ont justement des revendications qui sont d'ordre corporatiste, de plus d'argent dans les écoles. On compare, ça c'est un vieux truc, on compare le coût de l'étudiant à l'architecture par rapport au coût d'autres métiers, par exemple les ingénieurs ou les médecins, et on dit on veut le même montant. Bon, alors là déjà, ça me paraît quelque chose qui est assez injustifié, dans la mesure où les études d'architecture sont effectivement moins chères dans tous les pays, je ne vais pas dire dans toutes les époques, puisqu'en fait c'est un phénomène assez récent, le phénomène de l'architecture par rapport à d'autres domaines. Ça date de la fin du 19e siècle, tout au plus, et de l'enseignement dans l'école des beaux-arts. Donc c'est un enseignement qui n'a pas une grande histoire, puisqu'en fait il était formé sur le tas, on pourrait dire. Donc il y avait c'était plutôt des liens de corporation, et le distinguo entre entrepreneur et architecte d'ailleurs ne s'est établi, on peut dire, que au XXe siècle, et même assez tardivement, puisque on a des architectes comme les frères Perret qui étaient entrepreneurs, et comme à Toulouse on avait la famille Virban qui a construit une grande partie du Toulouse du XIXe siècle, et qui était industriel, qui était aussi donc des entrepreneurs, et qui étaient aussi des architectes dans cette tradition. Donc le coût de l'enseignement de l'architecture, puisque c'était de cela dont je parlais, ne peut pas être comparé à celui des biologistes, des chimistes ou des médecins, dans la mesure où il est totalement virtuel. Et malgré certaines réclamations d'ateliers publics, de faire des CHU d'architecture qui faisaient partie des revendications de 68, il est évident que c'est totalement impossible, parce que la temporalité du chantier et du projet d'architecture n'est pas du tout la même que celle des écoles, puisqu'en fait il s'agit de faire un concentré de transmission de savoir par justement ce qui se passait avant, c'est-à-dire l'apprentissage sur le chantier. Donc si les écoles sont des écoles chantiers, c'est qu'il n'y a plus d'école et on revient à la tradition ancienne, multiséculaire, où le métier s'apprenait sur le tas. Donc évidemment cette revendication est un peu absurde et comme je vous disais, le problème est ce qui est un problème, ce qui est une réalité. On est dans une transmission sur virtuelle, ça veut dire que on dessine des projets, alors qu'on le dessine à la main, ou aujourd'hui avec de l'informatique, il s'agit de choses assez semblables. On n'est pas dans la réalité. Donc cet enseignement de l'architecture est quand même dans une difficulté, c'est qu'il n'est pas confronté à la réalité. Et le jugement lui-même est un jugement qui reste subjectif, puisque on n'a pas la matérialité de l'objet que l'on projette et que l'on enseigne. Imaginez-vous l'enseignement de la musique, où on parlerait de musique et il n'y aurait pas d'instrument de musique, ou de l'enseignement de la sculpture sans sculpture. Bon, quoique les écoles des beaux-arts aujourd'hui sont un peu sur cette dérive qu'on pourrait qualifier de duche en piède, où on est beaucoup dans des démonstrations de virtuel et pas de réel. Bon, fin de la parenthèse par rapport à cela. En fait, c'est cette surprenante de justement ce manquement de réel est quelque chose qui est évidemment difficile, parce que cet enseignement n'a pas cette réalité. Alors, c'est vrai qu'il faut dire que à l'exemple d'autres pays voisins, même l'Allemagne, où il y avait des stages ouvriers assez longs, aujourd'hui on réincorpore des stages ouvriers, et puis le passage se fait aussi par des enseignants professionnels qui transmettent l'expérience de leur pratique. Alors, ça n'a pas toujours été cela, et pour revenir à cette fameuse grève, donc il y a une revendication qui est, je ne veux pas dire qu'elle soit surprenante, parce que qui est vraiment française, c'est une revendication pour que l'on augmente les crédits de recherche en architecture. Alors, vous allez dire, bon, ben, la recherche, c'est normal, puisqu'il y a de la recherche partout. Oui, mais il y a de la recherche partout, mais il n'y a pas de la recherche en matière artistique, puisque l'art lui-même est la recherche. Donc, l'artiste est un chercheur, d'une autre manière que le chercheur scientifique, mais il fait sa propre recherche et il la confronte après avec un public. Et sur cette ambiguïté-là, réside justement notre problème de l'enseignement de l'architecture, et peut-être plus largement de l'architecture, et aussi de sa spécificité française. Alors, il est vrai que le fait que l'école d'architecture ait été à l'École nationale supérieure des beaux-arts pendant le 20e siècle, enfin la première partie du 20e siècle et à la fin du 19e siècle, par rapport à d'autres pays où cet enseignement était, dans les pays anglo-saxons notamment, était intégré aussi, avait des études d'ingénieurs, et il n'y avait pas eu ces drames qui sont très français de lutte qui a pu exister en France entre entre architecte et ingénieur, et on est dans un, on peut dire, dans une pratique adaptative, réformée constamment, et en phase avec le monde contemporain. Et la France est un pays qui a du mal à réformer et qui produit des révolutions, et on a et on a toujours ce type d'exemple par rapport à cela. Donc, une des questions essentielles, et je vais le développer après la pause musicale, c'est quelle est la nature de l'architecture, question qui paraît assez saugrenue probablement dans l'histoire et dans d'autres pays, mais en France, la question, est-ce que l'architecture est un art ou est-ce que l'architecture est une science ? Alors, c'est une question qui paraît assez curieuse, mais si c'est un art, il n'y a pas de recherche. Et si c'est une science, ben, il faudrait le savoir parce que ça changerait tout et on aurait un processus qui serait un processus cumulatif de savoir et évidemment, on est loin de cela. Donc, on va écouter Naïma de John Coltrane qui va nous faire la pause musicale. Cette question de art ou science est une question qui paraît saugrenue dans d'autres pays, mais qui en France a son importance puisque On sait que dans la hiérarchie universitaire française, il y a les grandes écoles d'ingénieurs, et puis après les humanités et les écoles d'art qui sont à la queue, et que tout cela est morcelé et est dispersé dans l'espace urbain ou dans les territoires par rapport aux autres pays, qui sont pas forcément uniquement les pays anglo-saxons. On voit ça, par exemple, il y a des, j'en ai déjà parlé, des campus en Espagne ou en Italie, en Belgique, où justement les matières sont traitées sur un pied d'égalité. Donc, il est évident que ce rapport au territoire et au regroupement est quelque chose d'important, et cet événement français a créé ces hiérarchies qui, d'ailleurs, ont des résultats, à mon sens, assez catastrophique sur un plan social et aussi sur un plan général de l'évolution de notre enseignement et certainement de tout ce qui peut être l'ingénierie, les arts et tout ce qui peut être coupé, dissocié dans notre pays. Alors, la tentation, il est évident, des architectes, et notamment de cette génération de 68, ça a été de rendre l'architecture, qui était donc à l'école des Beaux-Arts, de la rendre scientifique. Donc il y a eu des tentatives de créer la science de l'architecture, on appelait ça l'architecturologie. Bon, évidemment, il y a eu des crédits donnés par le gouvernement par rapport à cela. Évidemment, ça n'a rien produit. Et on peut dire, je dirais, que c'était une vraie foutaise. Et comme on est en France, malgré tous les échecs, eh bien, on peut dire que 45 ans après, ça continue. Et non seulement ça continue, mais on en redemande. Et là, dans les revendications étudiantes, qui sont évidemment téléguidées par les enseignants-chercheurs, ou qui se disent tels, qui sont dans une lutte pour protéger leur statut, ou en créer un supplémentaire, être déchargé de cours, avoir des laboratoires, tous ces mots qui renvoient à la science. Il est évident que la science, elle travaille d'une manière cumulative et n'a rien à voir avec ces laboratoires qui n'ont rien d'être des laboratoires scientifiques. Et je trouve que cette appropriation de ce nom est assez scandaleuse. Rappelons que la science, encore une fois, étant cumulative, même si un chercheur ne trouve rien durant toute sa vie, il est important que la voie qu'il a suivie, qui va être, je ne sais pas, prenons par exemple la recherche sur le cancer ou sur les virus là de la grippe, on suit une voie, et si cette voie n'a pas débouché même pendant la vie du chercheur, elle a été utile parce que elle fait partie de voies qui n'ont pas à être poursuivies. Donc la science travaille totalement en réseau. Et on ne refait pas les expériences de Newton, de Galilée, puisqu'en fait, la science avance entièrement. En art, on n'avance pas du tout. En art, on ne fait que recommencer, et l'artiste recommence à zéro l'histoire du monde pour lui-même, et il refait l'apprentissage que tous les gens ont fait. Alors, il y a des transmissions de témoins sur des techniques, sur des savoir-faire, mais l'œuvre d'art est toujours un mystère et ne peut pas être transmise comme sera transmis les résultats scientifiques qui sont transmis. Et aujourd'hui, on peut dire que un lycéen connaît plus de science que Galilée, Newton, Darwin, Pasteur, même. Donc, on ne peut pas dire du tout de cela de peintre, de musicien et bien sûr d'architecte. Alors, le processus aujourd'hui, qui est celui de l'enseignement, c'est cette tendance de penser que du moment qu'il y a l'informatique, il va falloir tout informatiser et que l'on doit suivre la science. Alors bien sûr, on se sert des outils de son époque, on prend les matériaux de son époque, mais ça n'empêche pas aussi de prendre les matériaux anciens. On peut continuer à construire en briques, on peut continuer à construire en pierre et en bois, par exemple. Donc, on n'est pas du tout dans le comme un objet technologique qui va, lui, avancer avec les nouvelles technologies, et on ne va pas refaire l'avion de Clément Ader aujourd'hui à Blagnac. Donc, le processus architectural n'étant pas lié aux techniques, il est évident que cet enseignement doit être un enseignement qui devrait être, pour une bonne part, tourné vers le passé, une compréhension du présent, mais la recherche qui serait faite par des étudiants ou des gens qui ne construisent pas à destination de gens qui construisent, il est évident, est une aberration et qui est un parallèle avec d'autres disciplines comme la médecine et qui, évidemment, ne peuvent pas être appliquées. Alors, il est évident que c'est assez valorisant de dire « je suis chercheur et je suis dans mon laboratoire et je vais inonder les hommes d'affaires praticiens, puisque c'est le mot qui est employé à la place d'architecte, de mes découvertes, et quand il n'y a aucune découverte d'ailleurs à faire. Mais aujourd'hui, avec l'écologie notamment, il y a cette illusion qu'on va réinventer la ville, on va réinventer les manières de vivre et que nous sommes devant l'aube d'une renaissance totale où tout va être remis, reconstitué. Bon, vous savez que ça fait partie des thèmes que je pratique et je continue d'expliquer. En fait, on est toujours dans des cycles, et les choses sont, sous des apparences contemporaines, sont toujours les mêmes, puisqu'on est lié à l'humain et à l'homme qui, lui, ne bouge pas. Donc, la science suit son chemin cumulatif d'évolution de la connaissance, mais tout ce qui est lié à l'homme est lié au cycle, et il est bien important de marquer cette barrière. Alors ce matin, je lisais qu'il y a un institut de dessin, d'animation dans le cinéma, qui est une école qui s'appelle Georges Méliès, avec un directeur qui s'appelle Franck Petitat, et qui a le bon sens d'apprendre en même temps que les outils extrêmement performants, perfectionnés d'animation, d'apprendre le dessin, la perspective, et c'est assez rassurant, comme on a aujourd'hui d'ailleurs dans le monde de l'automobile, avec des logiciels qui sont prodigieusement complexes pour la mise en forme des automobiles, eh bien les designers, il continue de travailler avec des maquettes en argile et des dessins à la main et au crayon. Donc l'un n'empêche pas l'autre et il n'y a pas de changement du monde. C'est pas parce que on a aujourd'hui des peintures acryliques qui sont chimiques par rapport aux peintures à l'huile qui continuent d'être employés, mais qui sont faites la plupart du temps avec un grand nombre de pigments naturels et avec de l'huile, donc des procédés qui sont vieux comme le monde, puisque les peintures pariétales étaient faites de la même composition avec le noir du charbon, les argiles terre de sienne et les rouges d'oxydation, et on avait les mêmes liants qu'aujourd'hui. Et il y a quelque chose de rassurant dans cette continuité, mais ça n'exclut pas aussi qu'on peut aussi avoir des produits de synthèse et que les deux mondes ne s'opposent pas. Alors, l'architecture, premier des arts, c'était ce que annonçait, j'ai lu ça dans un journal, Jean Nouvel, l'architecte français, Grande découverte, l'architecture premier des arts, c'est quelque chose que l'on a entendu depuis des siècles dans notre Occident. Mais je dirais que c'est un propos de l'Occident de penser que l'architecture est le premier des arts. Et j'ajouterais que l'architecture est le premier des arts pour les civilisations dont l'architecture est le premier des arts. Donc c'est une tautologie, mais qui est importante parce que d'autres civilisations qui ont eu d'autres arts en premier, qui étaient la parole, le récit, la danse, comme art du déroulement, comme disait Alain par rapport aux arts statiques, n'étaient pas non plus des civilisations qui étaient sous-civilisées, mais simplement c'était sous une autre forme. Donc, je finirai sur cette note de la question d'aujourd'hui. Est-ce que l'architecture est le premier des arts? Et nous y répondrons, je pense, d'une manière négative, mais il se serait intéressant dans les prochaines semaines d'essayer d'aborder ce problème de la nouvelle hiérarchie des arts entre les arts de la mobilité, du déroulement, et les arts statiques, comme disait le philosophe Alain. C'était Où vivrons-nous demain? Merci à Hugo qui officie à la technique et à Thierry Aguilot qui m'assistait aujourd'hui. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?